bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Écoutez le cri du désert, tracez la route du Seigneur, aménagez ses sentiers, comblez les ravins, rasez la montagne, rasez la colline, redressez les passages tortueux, épierrez les chemins, que tous retrouvent la route de Dieu. Voilà ce que criait Jean, nous l'avons entendu dans l'épisode précédent, sur les bords du Jourdain, là où il baptisait. Et c'est ce qu'il fait, il prépare la route pour les autres. Il crie depuis le désert, il trace la route, il aménage, il comble, il rase, il redresse, il épierre. Jean est un véritable génie civil, il construit des ponts, des routes de l'âme, des autoroutes, les chemins de traverse, les accès, les ponts, les tunnels. Il est celui qui conduit à. Mais sa violence est aussi forte que l'engagement du zèle qui est le sien. Race de vipère, comment croyez-vous échapper? Prouvez donc par vos actes que vous avez changé. N'allez pas dire ceci ou cela. Ne criez pas, nous avons Abraham. Les cailloux qui sont là, n'oubliez pas, la hache est prête. Quelle violence, mais violence de l'urgence, entendons-nous dans la voix de Jean. Il sent comme prophète qu'il n'en a plus pour longtemps lui-même. Vous savez qu'il sera décapité par Hérode. Il sent lui-même qu'il faut qu'il arrive, ce Jésus, ce prophète, ce Messie, ce Fils de Dieu. Il attend avec impatience. Il n'est né que pour cela. Il le précède. Il le rencontre.
On avait l'impression que plus Jean était dur dans ses paroles, plus les gens accouraient à lui. On lui demandait « Dis-nous ce qu'il faut faire ». « Eh bien, répondait-il, que celui qui a deux vêtements en donne un à celui qui n'en a pas. Et si vous avez de quoi manger, partagez. » Des agents du fisc venaient aussi. « Et nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé, répliquait Jean. Sans augmenter vos marges. Et même les soldats romains étaient conquis par la parole de Jean. À nous, que conseillerais-tu? Ne violentez personne et contentez-vous de votre solde. Le peuple était dans l'attente. Le peuple vivait dans l'espérance. Le cœur du peuple résonnait de questions au sujet de Jean. Et si c'était lui, le Messie? Le bruit courait si fort que Jean dut déclarer. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais elle vient bientôt, la force que vous attendez. Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Celui qui viendra vous baptiser dans l'esprit de feu et de sainteté, c'est lui qui tient à la main le crible pour nettoyer et recueillir le grain. Mais la paille, il la jettera dans le feu qu'on ne peut éteindre. C'est ainsi que Jean, à la fois terrible et doux, violent et tendre, annonçait à tous et à chacun la bonne nouvelle de Dieu qui vient. Mais Hérode, le souverain de cet étrange Galilée, ne l'entendait pas de cette oreille. Depuis qu'il avait volé la femme de son frère Philippe, l'insatiable Hérodiade, il ne semblait plus supporter les blâmes de gens qui lui reprochaient sans répit cette abomination. Poussé par cette compagne meurtrière, il finit par mettre le comble à ses forfaits. Il fit jeter en prison le précurseur du Messie d'Israël. Jésus avait voulu lui aussi se laisser baptiser dans le Jourdain après que tout le peuple l'ait fait. Pendant qu'il priait au milieu de l'eau, le ciel s'était ouvert, et comme un grand coup de vent, la sainteté de Dieu était descendue sur lui, sous la forme d'une colombe que tout le monde avait pu voir. Une voix avait traversé le silence. « C'est toi, mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » C'est pratiquement là que commençait l'aventure de Jésus. Il avait environ 30 ans, il était, ce que l'on pensait, le fils de Joseph, fils de Élie, fils de Maathath, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Yanaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils de Esli, fils de Nagaï, fils de Maath, fils de Matathias, fils de Semaïn, fils de Yosek, fils de Yoda, fils de Yonahan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Addi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils Iorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Simeon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Yonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Natam, fils de David, fils de Jessé, fils de Yobad, fils de Boaz, fils de Sala, fils de Naason, fils d'Aminabad, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Serouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Matusala, fils de Enoch, fils de Larai, fils de Malélel, fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu.
Mais pourquoi donc nous servir cette quarantaine de générations qui se suivent, etc., etc. Mais la finale vous l'a apporté la réponse. Dans cette descendance, dans cette remontance, puisqu'on remonte jusqu'à Dieu, il fallait bien prouver, à la façon de cette époque, que Jésus, en droite ligne, descend de Dieu comme fils d'Adam. Comme fils d'homme, il est le fils du premier homme, et promis à travers la Bible des Juifs, c'est-à-dire ce que nous appelons l'Ancien Testament, il passe ainsi à travers toutes les générations, dont nous reconnaissons certains, Matathias, les plus proches. Puis ensuite, vous vous rappelez Boz, David, bien sûr. Et puis, si vous avez lu Racine, il y a Eliakim, Yonam, et puis, plus haut, les premiers que nous connaissons, Enoch, et puis Seth, et puis Adam. Donc, il est nécessaire pour la mentalité de l'époque d'introduire Jésus, parce que c'est un discours d'introduction, c'est un épisode d'introduction. C'est pratiquement, dit le début de ce dernier paragraphe, que commençait l'aventure de Jésus. Il avait environ 30 ans. Voilà. L'introduction est faite et tout l'art de Luc, déjà juste avant cette grande litanie de génération, introduit déjà l'élément dramatique qui nous prépare un intérêt supplémentaire, c'est l'arrestation de Jean. Jean a fait son travail, Jean a rempli sa tâche, il sort de scène, exit Jean, le cousin. Et cela correspondait aussi à une nécessité importante, parce que dans les premiers siècles, nous sommes ici dans les années 80, après avoir quitté donc cette Palestine, enfin ce pays de Jésus, cette terre, après 70, donc la bataille de Masada et l'extermination des Juifs de la Palestine à cette époque-là, le doute semble avoir... comment exister à un moment donné de Jean et de Jésus. Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Jésus? Non, il faut bien que ce soit clair pour tout le monde. On fait sortir Jean de la scène. Il sera exécuté, on l'annonce tout de suite. Et une fois que l'annonce de son exécution a été faite, à ce moment-là, on introduit définitivement Jésus de Nazareth. On n'entendra plus parler de Jean. C'est fini, il a rempli son rôle. C'est maintenant l'aventure de Jésus qui commence. Cet épisode clôt, pourrait-on dire, les événements préparateurs de, ou préparatoires à, au travail, à la mission de Jésus lui-même. C'est une façon à la fois élégante et très adroite de la part de Luc, comme d'habitude, de nous avoir établit toute la grande toile de fond. À partir de maintenant, c'est sur Jésus de Nazareth, son action, sa parole, les groupes qu'il va rencontrer, les histoires dites paraboles qu'il va raconter. C'est sur la personne même de Jésus que tout va se concentrer. Le projecteur qui éclairait toute la scène et nous a fait entrer dans un monde qui est le sien, autant au point de vue des paysages que des acteurs sociopolitique, économique en place. Le faisceau se retrécit et fixe maintenant, comme sur la grande scène, le héros principal, Jésus.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.